foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Habib Samrakandi. Bonsoir Habib.
Bonsoir.
Les auditeurs de Radio Présence et entre autres de cette émission « Ma foi, j'y crois » vous ont déjà entendu, vous connaissent un petit peu, donc nous n'allons pas refaire toute votre histoire, votre parcours depuis Marrakech, votre arrivée à Toulouse avec les petits frères et puis votre travail comme anthropologue, votre thèse sur les confréries musulmanes à Toulouse, votre responsabilité dans la revue Horizon Maghrébin, vos convictions. Mais vous venez vous parler ce soir spécialement des relations entre les musulmans, entre l'islam et le christianisme. Mais ceux qui voudraient réécouter, réentendre, moi je l'ai écouté avec beaucoup d'émotion, l'émission du 28 octobre et l'émission du 8 août 2020. Merci d'être revenu en ces moments difficiles, autant dans les questions de la pandémie, mais aussi dans parfois certaines frictions entre les religions de diverses obédiences. Je sais que le journal La Croix a lancé un long dossier, mais c'était il y a un mois. Nous allons partir plus précisément de vos convictions actuellement et de vos dernières lectures. Depuis Vatican II, d'ailleurs, un long parcours.
Je suis très content de revenir pour témoigner de mon parcours de vie intégration dans ce processus de dialogue interreligieux lancé par Vatican II et auquel je me suis beaucoup intéressé pour deux raisons. La première, c'est que mon père, imam d'une mosquée très célèbre à Marrakech, où est enterré un grand saint du XVe siècle qui se fait connaître dans l'histoire de la guerre entre le Maroc et le Portugal, très connue par la bataille des Trois Rois. Donc vous imaginez un peu, je m'inscris dans une longue durée de l'histoire. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien brosser un bref tableau sur les raisons académiques qui m'ont poussé à situer ce débat lancé depuis Vatican II.
Et avant, avec François d'Assise.
Voilà.
Et nous y reviendrons.
Et sur la longue histoire. Et un historien culturel des mentalités britannique, qui nous a quittés en 1992, a publié une œuvre majeure. Cet historien s'appelle Norman Daniel, qui a publié « Islam et Occident » et qui a été traduit aux éditions du CERF à l'initiative des dominicains du Caire, et plus particulièrement le frère Régis Morillon, avec qui je suis en contact, qui était directeur de l'Institut dominicain des études orientales au Caire. Et ce livre est majeur pour notre actualité, pour notre débat. Pourquoi ? Parce qu'il témoigne, je peux dire très vite, d'une alliance des ignorances qui date depuis le Moyen-Âge et Vatican II nous place dans une alliance des civilisations, des cultures et des religions.
L'ignorance, ça veut dire souvent, ça entraîne la peur. La peur peut dire, nous en restons au conflit. Or, dépasser cette ignorance, c'est rencontrer l'autre et c'est se comprendre.
Oui. Et alors, il dit en introduction de son livre que l'Occident européen a depuis longtemps son propre point de vue qui s'est formé entre 1100 et 1300 environ, et ne s'est que propagé la même conviction et ignorance qui malheureusement ne s'est pas modifié ni à l'époque moderne et jusqu'à Vatican II. Et ce chercheur, à travers ses écrits, dit quelque chose de très important. C'est pas faire revivre certains écrits diffamatoires et ridicules sur la religion musulmane et le prophète de l'islam. C'était pas son objectif, mais il fallait passer par là pour rappeler, dans un contexte bien particulier, l'image, la représentation réciproque de la chrétienté et de l'islam. Donc il s'est forcé à examiner les conséquences de l'ignorance et du mépris de certains hommes envers d'autres qu'ils supposent être leurs ennemis. Et ce qui nous amène à poser la question aujourd'hui, que les nombreuses idées fausses auxquelles la civilisation européenne a adhéré dans le passé, les musulmans de leur côté doivent faire de même de l'image qu'ils ont forgée à l'égard de la chrétienté et malheureusement perdure jusqu'à aujourd'hui.
Il faut donc dépasser cette impasse historique et c'est l'enjeu de votre travail et de vos convictions.
C'est pour cela que je me suis intéressé aux pères fondateurs du dialogue islamo-chrétien qui ont jalonné le XXe siècle. Et certains savants chrétiens, conscients du problème, se sont efforcés de se libérer de ces attitudes chrétiennes et européennes traditionnelles. Leur succès, malheureusement, n'a pas toujours été à la hauteur de leur ambition affirmée. Et cette ambition affirmée, grâce à trois ou quatre grandes figures chrétiennes, que Vatican II a ouvert en 1959 les travaux qui ont été couronnés par la reconnaissance officielle que l'islam est une religion. Oui. Et elle s'inscrit dans le monothéisme. Et c'est là le début de tout ce que nous vivons depuis 1965 jusqu'à nos jours.
Entre autres, Massignon, qui est une personne, un personnage que vous aimez beaucoup et qui, maintenant, il y a la chaire au Collège de France sur Massignon et son œuvre.
Effectivement, le professeur Louis Massignon est la cheville ouvrière de ce processus qui a mené à Vatican II. Et Massignon a rencontré l'islam et revenu au christianisme au contact de l'islam. Il a fait ses premiers travaux en 1908 en Irak, et puis il a enseigné à l'université d'Al-Azhar en 1913 de la philosophie, et en 1922, il a soutenu sa thèse magistrale consacrée au mystique bagdadien Hallaj. Et c'est cette voie qui a donné lieu à un véritable dialogue qui a pu être transmis, puisqu'il était ami de papes, et il les a convaincus que l'heure est arrivée de reconnaître l'islam comme religion. Et il dit, dans le dialogue avec l'autre, pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, il faut se faire son hôte. Et c'est auprès de la tradition de l'hospitalité sacrée en islam qu'il a pu trouver cette manière de se décentrer sur la pensée de l'autre pour mieux la connaître et ce que vous avez dit, se comprendre, c'est renaître à l'autre, connaître les fondements de sa foi et naître au dialogue équitable. Et le deuxième personnage emblématique de ce dialogue islamo-chrétien, c'est un Marocain d'une grande famille musulmane de Fès qui, en 1928, s'est converti au christianisme, je veux parler de Mohamed Jean Abdeljalil. Et alors cette figure importante dans l'histoire du dialogue islamo-chrétien est très importante à souligner. Pourquoi ? Parce que le père Abdeljalil, à l'âge de 23 ans, durant ses études à la Sorbonne et après des recherches religieuses qui ont duré près de 3 ans, il a décidé à demander le baptême de l'Église catholique, puis à s'offrir à servir Jésus-Christ dans et sur l'Église, à la suite de saint François d'Assise, puisqu'il est devenu franciscain. Il a eu son baptême en 1928 et il est devenu franciscain. Et le 7 avril 1928 a eu son baptême et Louis Massignon fut son parrain. D'où cette relation de maître à disciple qui a aidé ce jeune Marocain à être à la fois dans la foi chrétienne, mais sans perdre sa traditionnelle foi musulmane, et il l'a enseigné toute sa vie. Il est devenu professeur à l'Institut catholique de Paris, il a enseigné en Allemagne, en Espagne, et il parlait 5 langues qu'il maîtrise, et c'est grâce à lui, dans le tournant des années 40-50, qu'on a pu avoir la culture arabe, la littérature arabe enseignée à l'Institut catholique de Paris jusqu'en 1967, date où il a eu sa maladie. Il a été obligé de l'éloigner de l'enseignement et il est mort en 1979. Et un élément important qui est lié à l'histoire de Toulouse, il a eu une grande correspondance avec son maître à penser, Jacques Maritain. Jacques Maritain était chez les petits frères de Charles Foucault. Il est l'auteur des Paysans de la Garonne, mais beaucoup de gens ne savent pas que les Paysans de la Garonne est un dialogue avec le père Jean Abdeljalil, qui, de son côté, a écrit un ouvrage sur les paysans de l'Oie de Fès. Donc c'est un dialogue très riche sur Vatican II.
Les auditeurs de Radio Présence écoutent chaque semaine Claire Bressolette nous parler de la philosophie pratique de Jacques Maritain. Alors le lien sera fait, bien sûr, entre vos convictions, votre foi et puis les émissions qui sont diffusées le mercredi. Peut-être encore un mot, mais
Un mot très bref sur
la musique que vous avez apportée.
Un mot très bref sur deux personnalités importantes de ces prophètes du dialogue islamo-chrétien. C'est le père Anawati. Voilà une autre figure arabe-chrétien d'Alexandrie, d'origine de famille syrienne, qui est devenu dominicain. Et il a fondé en 1954 ce fameux travail qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui est un apport considérable pour le dialogue islamo-chrétien. Je veux parler de mélange de l'Institut dominicain des études orientales, qui sont installés au Caire, dont l'actuel directeur n'est que le frère Emmanuel Pisani.
Qui a eu un débat le mois dernier, justement, dans la Croix.
Et Emmanuel Pisani, comme figure importante de cette troisième génération, je peux dire, après le père Bormans et Monseigneur Tissier, qui continue sur le terrain à la fois du dialogue, mais aussi de la recherche académique sur les points de convergence des théologies musulmanes et chrétiennes, et de la possibilité de féconder ce dialogue lancé depuis Vatican II. Et dernière figure importante quand même, parce que c'est un Toulousain, sur lequel j'ai travaillé en 1988 pour établir la totalité de ses travaux sur l'islam, je veux parler de frère André, qui est un petit frère de Charles Foucault et qui s'appelle, pour les spécialistes de l'islam, Louis Gardet. Et Louis Gardet a fini sa vie à Toulouse. Il a écrit au moins 50 articles académiques publiés dans l'Encyclopédie de l'islam qui définit de manière scientifique les composantes de la culture ou de la foi musulmane.
Et les conditions du dialogue.
Voilà.
Alors, vous nous avez apporté une musique qui nous oriente plutôt vers le Liban. Et je veux évoquer ici la pensée de Michel Younes, puisqu'il est professeur à l'Institut catholique de Lyon. Et il va diriger la thèse de Jean-Claude Angoula, qui est un spiritain. Donc on connaît Daniel Brottier, qui travaille, lui, plutôt sur les relations entre les chrétiens et les musulmans au Sénégal. Mais partons vers le Liban. Et ce soir, avec Habib Samrakandi, pour ceux qui n'auraient pas eu le début de l'émission, je rappelle que vous êtes chercheur à l'université, responsable d'Horizon Maghrébin, et votre foi, vos convictions, c'est ce dialogue académique, non pas politique. C'est là où il faut bien distinguer peut-être les différents courants du Conseil français du culte musulman, mais votre question, c'est justement... quel avenir des musulmans de France ou ceux qui sont en France ?
Bon, vous posez un dossier qui mérite à lui seul toute une émission. Pour aller à l'essentiel, je peux dire en quelques mots que le nœud du problème réside dans deux... événements majeurs de l'histoire contemporaine. Là, le premier élément à prendre en considération, c'est la représentation officielle de l'État français vis-à-vis de ce qu'ils ont appelé à l'époque la main-d'œuvre étrangère. Jusqu'à Giscard, en 77, il y a eu un encouragement officiel du retour de cette main d'œuvre chez elle, avec un encouragement en donnant 10 000 francs pour chaque migrant.
Qui revenait à son pays.
Cette opération a échoué. Et elle a créé même une polémique terrible de haine à l'égard de l'étranger, puisque les premières manifestations du Front National étaient à la place de la valise, et
le
de 1000 francs, ils ont dit la valise ou le cercueil. Et du coup, Le fond du problème, c'est que la politique officielle de l'État français au temps de Giscard était de dire ceci. Puisque ces musulmans turcs, marocains, algériens, sénégalais, tunisiens, etc. vont revenir chez eux, eh bien c'est mieux, dans la logique des choses, d'attribuer la responsabilité de l'encadrement culturel, linguistique et culturel au pays d'origine.
Les ambassades.
Du coup, nous recevons sur le territoire français, avec l'argent des contribuables de l'État turc, de l'État marocain, de l'État algérien, des professeurs d'arabe ou de turc et des imams. Aujourd'hui, nous sommes dans un fait accompli. Il y a, comme l'a rappelé la Croix dans ce débat ces derniers jours, nous avons plus de mosquées turques sur le territoire français, gérées par l'État turc, qui est laïque aussi, et qui est financé par l'État turc et qui véhicule un islam turc, c'est-à-dire un islam national. La même chose est attribuée à l'État algérien et à l'État marocain. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique de l'actuel président, ils veulent préparer les conditions de se libérer progressivement de l'allégeance des musulmans à ces états respectifs en proposant la formation des imams sur le sol français. Cependant,
avec tout un travail d'exégèse également qui serait permis.
Cependant, le problème crucial, c'est que l'État français n'est pas encore prêt. Et par conséquent, il y a eu cette proposition de confier la formation des imams à l'État marocain jusqu'à 2024. Donc d'ici là, nous assistons à une polémique entre l'islam officiel de ces États et des islams dans la pluralité identitaire du mode de croire.
Il faudra que nous revenions sur ces questions parce qu'il nous reste que malheureusement 3 minutes. Mais le regard critique que vous posez, sans rancune, sur ces sociétés maghrébines et sur les relations de va-et-vient entre le Maghreb, l'Afrique noire, la Turquie. En même temps, il faut porter un regard d'espoir et je pense que c'est ici que nous pouvons rappeler le travail du pape François qui dépasse ces questions, j'allais dire, de contingence ou de territoire, même si certains lui ont reproché d'avoir oublié le rôle de la nation et de s'en tenir à peut-être un prophétisme. Mais vous avez des contacts précis avec des universitaires qui sont d'accord pour ce travail théorique. Et puis aussi, au niveau local, lorsqu'on se connaît, par exemple, le groupe d'amitié islamo-chrétien, où ce ne sont pas des grandes idées, mais c'est le vivre ensemble qui comporte la fraternité.
Moi, je pense, pour les croyants musulmans, nous avons malheureusement un retard historique pour un véritable dialogue islamo-chrétien. Je pars seulement de mon expérience personnelle. J'ai passé 30 ans de ma vie à fréquenter le monachisme chrétien, à fréquenter les petits frères de Charles Foucault, à prier avec eux, à fréquenter les moines bénédictins en Calca, à prier Dominique. Avec eux, à prier avec les dominicains, avec le père Jomier, qui est un grand savant spécialiste de l'islam, au couvent des dominicains. Donc je pense que sur le plan pratique, nous n'avons pas beaucoup. Je ne crois pas que c'est possible de se limiter à dialoguer dans un cercle, élogieux soit-il, de dialogue islamo-chrétien. Il faut fréquenter les textes et fréquenter les pratiques pour avancer. Deuxième élément important, c'est la question de l'interprétation du texte et les limites de dialogue institutionnel. Regardez même, malgré la volonté de l'actuel pape, il se trouve devant une grande difficulté avec les institutions officielles des musulmans. Sur un point que je résume, les institutions musulmanes aujourd'hui, que ce soit de l'Arabie Saoudite ou de l'Égypte, ou des pays du Moyen-Orient, ou du Maroc même, ils n'ont pas la volonté encore de acter la liberté absolue de conscience et de reconnaître officiellement l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est liberté de pensée, de conscience et de religion. Et Emmanuel Pisani a fait ça.
Merci, Habib. Nous devons d'ailleurs terminer, mais j'aurais voulu laisser la parole au pape François, Fratelli Tutti. Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d'isolement. Transforme-les en espoir et en fraternité. À bientôt, Habib. Nous continuerons ce dialogue.
Merci beaucoup. Merci.